pour démarrer 6-9.
Puisqu'il est 6h, justement.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd. Le
6-9. 6h, le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Un climat toujours plus tendu au guichet de France Travail. Les signalements d'incivilité en nette hausse l'an dernier. Les syndicats y voient entre autres une conséquence des réformes et des polémiques autour des chômeurs. Vous les entendrez. À Gaza, l'espoir d'une intensification de l'aide humanitaire grâce à cette jetée que les États-Unis commencent à construire sur la côte de l'enclave. Précision à suivre. Dans ce journal aussi, la colère du mouvement MeToo aux États-Unis après l'annulation de l'une des condamnations d'Harvey Weinstein et la mort du réalisateur Laurent Cantet, l'hommage ce matin d'un ami de toujours dans ses Deux-Sèvres natales.
France Inter.
C'est un document interne dont tous les indicateurs passent au rouge.
Chez France Travail, l'ancien pôle emploi, il n'y a jamais eu autant de signalements d'agressions, d'incivilité et plus globalement de tensions dans les agences. Plus 12% l'an dernier, selon ce rapport révélé par Politis et que vous avez pu également consulter, Willy Moreau.
L'année dernière, 16 000 fiches de signalement ont été rédigées à travers les 900 agences du pays.
Ça peut être des insultes.
Vincent Lalouette, membre du bureau national du syndicat SMUFSU.
On a aussi la réception au courrier de l'agence d'une enveloppe contenant une balle avec un mot en disant « je vous tuerai tous ». Et puis le dernier niveau, c'est l'agression physique.
143 agressions physiques, 6900 agressions verbales signalées l'année dernière, ce sont des records depuis 2021. France Travail encourage ses agents à signaler tout incident depuis l'assassinat d'une conseillère à Valence. C'est une des explications assez hausse selon Laurent Méric, mais le président du syndicat SNAP en avance également une autre.
Les tensions qui existent notamment par rapport au marché du travail, à la pression qui est mise sur les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas suffisamment actifs dans leurs recherches, et puis les inquiétudes aussi par rapport aux réformes de l'assurance chômage passées et annoncées, font qu'effectivement, les conditions d'accueil de nos usagers les amènent à être un peu plus agressifs verbalement et physiquement.
Des demandeurs d'emploi qui menacent de plus en plus de se suicider. Plus de 3000 signalements l'année dernière. Le nombre a été multiplié par 3 depuis 2019.
Willy Moreau de France Info pour ce document de France Travail qui fuit au lendemain des derniers chiffres du chômage dévoilés par l'organisme. Il s'est stabilisé au premier trimestre à moins 0,1% après 6 mois de hausse. Beaucoup plus préoccupant pour l'exécutif, les chiffres du déficit et de la dette avant le verdict ce soir de deux agences de notation. Première réévaluation de la note souveraine française depuis les mauvaises nouvelles budgétaires du début d'année. Alors Fitch et Moody's vont-elles ou non abaisser la note souveraine de la France ? Une dégradation pourrait à terme, sans que ce soit forcément automatique, renchérir le coût des futurs emprunts de l'État. D'autant que la notation la plus attendue, c'est dans un mois, celle de S&P.
Et il est maintenant 6h03. Le bâtiment historique de Sciences Po Paris était occupé cette nuit.
Oui, par une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens, rue Saint-Guillaume dans la capitale, en écho aux mobilisations sur les campus américains. La veille déjà, un autre site de l'école avait été investi dans la soirée avant que la police ne déloge les occupants. Au Proche-Orient, comme il l'avait promis, les États-Unis viennent de commencer la construction d'une jetée à Gaza pour accroître l'arrivée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée. Alors Étienne Monin, comment ça va marcher ? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas une solution miracle.
Ce rouage supplémentaire dans l'aide humanitaire a été annoncé il y a un mois et demi par le président américain, au moment où la situation est déjà critique avec les premières victimes de la faim dans le nord de l'enclave.
Tonight, I'm directing the US military to lead an emergency mission.
Le président américain annonce la construction d'une plateforme flottante sur laquelle de gros navires pourront accoster pour confier leur cargaison à de plus petits bateaux qui devraient décharger cette aide sur une jetée construite depuis la côte gazaoui. Les bateaux militaires qui sont actuellement à l'œuvre sont partis de Virginie. Dans un reportage depuis une base américaine, la BBC explique que l'ambition est de fournir 2 millions de repas par jour. La jetée devrait être opérationnelle début mais l'Europe souhaite participer à un corridor maritime humanitaire. Chypre fait figure de plaque tournante idéale, mais ce port ne règle pas le problème de la circulation et de la sécurité dans l'enclave, où les camions entrent toujours en nombre insuffisant.
Aux États-Unis, avalanche de réactions indignées au sein du mouvement MeToo après l'annulation de l'une des condamnations d'Harvey Weinstein pour viol à New York. L'ancien mania d'Hollywood reste en prison puisqu'il purge une autre peine prononcée en Californie. Mais la cour d'appel de New York estime que son premier procès n'était pas équitable. Depuis, les féministes américaines s'étranglent, Loïc Lory.
C'est une trahison institutionnelle, affirme Ashley Judd à propos de l'annulation de la condamnation d'Harvey Weinstein. L'actrice avait été la toute première à dénoncer auprès du New York Times le comportement de l'ex-producteur. Voilà ce que c'est que d'être une femme en Amérique, vivre avec des hommes qui pensent avoir des droits sur nos corps. Dépit également pour Tarana Burke, la fondatrice du mouvement MeToo, plus de 10 ans avant le procès Weinstein. Nous sommes dévastés pour les survivantes qui avaient trouvé du réconfort, une forme de catharsis dans cette condamnation. Beaucoup d'entre nous pensaient que nous étions sur la voie d'une nouvelle Amérique, mais ce moment nous fait sentir que nous avions tort. L'avocat de l'intéressé Arthur Aidala, en revanche, se félicite. Harvey Weinstein n'a pas eu le droit à un procès équitable. Personne n'est au-dessus de la loi, mais personne n'est en dessous. On ne peut pas ignorer un siècle de précédents légaux juste parce que quelqu'un est impopulaire. Son client reste toutefois en prison, mais doit être transféré en Californie où il a été condamné pour viol, en attendant le résultat d'un appel et un nouveau procès éventuellement à Manhattan.
Loïc Lory à New York. Joe Biden prolongera-t-il son voyage en France après sa participation au 80e anniversaire du débarquement le 6 juin? C'est en tout cas l'intention de l'Élysée qui va lui proposer de rester au moins 2 jours de plus. Information du Parisien que le service politique d'Inter a pu confirmer.
Ils ont pris le nom de leurs autres parents ou accolé un deuxième nom à leur patronyme.
Près de 150 000 Françaises et Français ont changé de nom de famille depuis que la loi le facilite, c'est-à-dire depuis l'été 2022. Alors, c'est bien plus qu'auparavant. L'INSEE vient de tirer ce premier bilan de cette loi Vignal qui permet donc de faire cette demande en mairie via un simple formulaire sans avoir à se justifier. La majorité des personnes concernées, 57%, sont des femmes. L'oiseau de la discorde dans les Vosges, le projet de réintroduction du grand tétras va-t-il être suspendu par la justice? Le tribunal administratif se prononce aujourd'hui sur le recours de 5 associations environnementales. Elles s'opposent à ce qu'on relâche bientôt dans le massif vosgien des oiseaux en provenance de Norvège. Les explications d'Isabelle Baudrier.
4 grands tétras capturés en début de semaine en Norvège. 3 femelles et un mâle, déjà tout proche des Vosges. La préfecture prévoit de lâcher une quinzaine d'individus dans les jours qui viennent. 200 oiseaux au total réintroduits en 5 ans dans le massif. Le projet ne peut pas réussir, pas dans les conditions actuelles, selon Dominique Imbert, président de l'association SOS Massif des Vosges.
C'est le parc qui a une mission, entre autres, de protection de la nature et qui, en réalité, pratique le développement des industries de loisirs, des activités sportives de loisirs sur le parc, des activités motorisées même dans les forêts vosgiennes, etc. Nous ne sommes pas opposés, on l'a dit, à la réintroduction du tétra, mais il faut qu'elle se fasse dans des conditions qui assure de la pérennité de cette réintroduction et de la survie de cet animal. Ça ne servira à rien de dépenser beaucoup d'argent pour être certain qu'après avoir réintroduit X animaux, ils disparaissent rapidement.
Les grands tétras norvégiens, sur le point d'être relâchés dans le massif, ne le seront finalement pas avant la décision du tribunal administratif. L'engagement a été pris par le parc naturel régional des Ballons des Vosges à l'issue de l'audience.
Et contacté par France Bleu Sud-Lorraine, ni la préfecture ni le parc naturel n'ont souhaité s'exprimer avant la décision du tribunal.
Le monde du cinéma salue un réalisateur engagé, spécialiste des sujets sociétaux.
Laurent Cantet nous a quittés hier à l'âge de 63 ans, après une carrière marquée par 9 films et un 10e en projet, tous marqués par sa fibre sociale. Parmi eux, une Palme d'Or à Cannes pour Entre les Murs en 2008. Il restait aussi très fidèle aux Deux-Sèvres, son département d'origine, et au cinéma du village de Chef-Boutonne que dirigeait l'un de ses amis, Yves Bonneau.
C'était un grand garçon, très beau, très timide, très modeste. Et je ne dis pas ça parce qu'il est mort, parce que ça a toujours été comme ça. Il ne ramenait pas sa fraise. Nous, on chantait tout petit à cause de lui. Mais lui, bon, Laurent, c'était Laurent. Il a fait un film, puis il a fait 2 films, et puis il a la Palme d'Or. Et il venait toujours, à chaque fois qu'il sortait un film, on n'avait pas besoin de demander, Laurent, est-ce que tu veux venir, etc. Il me proposait toujours, toujours, tout le temps. Ouais. Et c'était des moments extraordinaires. Quoi. Je voudrais lui dire, il a eu tort de partir si tôt. C'est pas possible de partir à cet âge-là. J'aurais bien aimé encore discuter avec lui. C'était un type extraordinaire.
Le témoignage d'Yves Bonneau dans les Deux-Sèvres. Et puis un petit mot de handball. Et le PSG mal embarqué en Ligue des Champions après sa lourde défaite à domicile hier soir. 30-22 face à Barcelone en quart de finale aller. Les Parisiens sont donc condamnés à l'exploit la semaine prochaine en terre catalane.
Merci Alexis Morel. Merci à vous d'écouter Inter. Il est 6h10, l'Esprit Sport. L'Esprit Sport avec Cédric Guillot, bonjour.
Bonjour.
À 91 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture des JO, on continue nos portraits de sportives et de sportifs dans l'Esprit Sport olympique. Et on va parler de tir ce matin avec une nouvelle Française qui vient de se qualifier.
Et qui s'appelle Mélanie Cousy. Elle vient effectivement de décrocher son billet pour cet été lors du tournoi de qualification olympique de tir qui se déroule cette semaine à Doha. Elle a en fait arraché une place en finale et ça s'est avéré déterminant pour obtenir ce fameux ticket olympique.
Et le tir pour elle, c'est une histoire de famille ?
C'est effectivement l'univers de Mélanie Cousy avec un grand-père et un père garde-chasse. Alors elle réalise ses premiers plateaux, on appelle ça comme ça, en tir à 12 ans. Elle débute en fosse olympique à 16 ans. Alors la fosse olympique, c'est une discipline qui est plus connue sous le nom anglais de ball trap. C'est un tir, vous savez, avec le fusil sur l'épaule. On tire sur des plateaux fuyants qui sont lancés à plus de 100 km/h. Mélanie Cousy qui a évoqué ce sport et ses particularités sur le site de la Fédération Française de Tir.
Il y a 5 postes, 3 trajectoires, donc on va avoir 2 trajectoires à gauche, 1 central et 2 trajectoires à droite par poste, ce qui nous fait 25 plateaux à la fin.
1.
Quand je monte mes canons, je m'incline légèrement vers l'avant et quand je suis prête, j'appelle.
1.
Je reste en apnée pour être optimal dans ma vision.
Voilà, alors ça sera la deuxième Olympiade de Mélanie Cousy, qui a 34 ans aujourd'hui, qui a déjà participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et juste derrière ces Jeux, eh bien, elle s'était engagée en école de police. Elle est devenue gardienne de la paix dans le civil. Elle souhaitait être policière depuis toute petite.
Merci, et donc elle entrera en lice le mardi 30 juillet. C'était l'Esprit Sport de Cédric Guillou.
À suivre, si tu ne vas pas au bureau de poste, le bureau de poste viendra à toi. C'est expérimenté en zone rurale. On verra ça dans le grand angle. Et puis prêt étudiant, mode d'emploi, ça sera la chronique Esprit Pratique.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Affaires sensibles, l'émission emblématique de France Inter, présentée par Fabrice Drouel, revient sur France 2 tous les dimanches à 15h05.
Qu'elle soit criminelle, politique, sociale ou historique, déjà résolue ou encore mystérieuse, les histoires que je vous raconte chaque dimanche ont marqué leur époque. Elles nous ont émus, instruits, touchés ou choqués. Elles sont devenues des affaires sensibles.
Affaires sensibles, tous les dimanches à 15h05 sur France 2, en partenariat avec l'INA.
Il est 6h13.
France Inter. Le 6-9.
Réduire la fracture territoriale grâce à des camions jaunes. La Poste expérimente dans l'Orne, la Haute-Marne, la Creuse, le Gers et le Jura. Une demi-journée par semaine, elle met des camions bureaux itinérants à la disposition des habitants de petits villages. Façon innovante de remplir ses obligations de l'entreprise, assurer une présence pour tous à moins de 5 km ou 20 minutes en voiture. Mission globalement accomplie au niveau national et maintenant aussi dans l'Orne, près de Gacé. Vous l'avez constaté, Sarah Mansoura.
Juché sur les hauteurs de Neuville-sur-Touc, 200 habitants, le camion jaune trône au milieu d'une nature verdoyante. Il a attiré l'œil de Claude.
Donc déposer du courrier, on peut aussi.
D'accord. Qui n'avait plus vu de service postal ici depuis plus de 50 ans.
On aurait pensé qu'avec le temps, Neuville allait plus ou moins mourir. Enfin, et là, on s'aperçoit que les gens, même aux alentours, viendront.
Dans ces 9 mètres carrés, tout est optimisé.
Vous voyez, on a une table manche debout, de façon à ce que les personnes puissent rédiger leurs recommandés, finaliser leurs colis. S'ils sont un petit peu fatigués parce qu'on a une population assez âgée, nous avons une belle banquette.
Angélique accueille les clients avec sa tablette France Service.
On propose aux personnes des accompagnements et ça leur permet de faire leur démarche administrative. Vous avez la CAF, l'assurance maladie, les finances publiques, donc les impôts, France Travail. Si vous avez besoin de demander votre chèque énergie, on peut le faire dans les France Service également, en ligne.
Je vais revenir pour vous donner du courrier, mesdames.
Un soulagement pour l'adjoint au maire, Patrick Sorel.
C'est quand même très intéressant, je pense, pour les gens. Puis bon, il y a des gens qui ont peu de mobilité, quoi.
Sur le camion, on peut lire « La Poste vient à votre rencontre ». Et c'est bien ce qui plaît à Christine.
Bah, ils viennent aussi beaucoup discuter. Je crois qu'ils ont ce besoin de discuter. Donc moi, je trouve ça formidable. On a le temps de les écouter, c'est très bien.
À l'intérieur.
À la mi-journée, elle plie boutique, direction Orgères à 15 km.
Il ne s'agit pas que le haut vent s'ouvre en cours de route.
Où le camion s'arrête pile sur les heures de permanence de la mairie.
Vous avez la carte bancaire ou...
Bien sûr.
Ce qui permettra à Thierry de venir faire ses démarches.
C'est encore plus facile. C'est pas toujours évident de pouvoir s'y rendre aux heures d'ouverture. Donc si c'est possible de pouvoir récupérer ses colis ici, c'est d'autant mieux.
Ah, tu penses à éteindre et à couper le chauffage, s'il te plaît?
Le bureau de poste itinérant doit permettre de toucher 13 000 habitants sur 9 communes. Cette expérimentation à 1 million d'euros sera réévaluée à la fin de l'année.
Une expérimentation qui débute demain aussi dans le Gers et le Jura. À suivre, notre invité de 6h20, le ministre chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot.
Le kiosque du 6-9 à 6h15. Bonjour Claude Oskolovitch.
Bonjour.
Premier coup d'œil sur les unes des journaux ce matin.
Avec celle de Sud-Ouest, la une de Sud-Ouest qui nous promet un avenir, mon Dieu, compliqué. Pollen, bientôt tous allergiques. 50% des gens seront allergiques au pollen en 2030. C'est la faute au climat, à plein de choses. Lisez, c'est terrifiant. J'en éternue déjà. Bon, en même temps, on se remet tout et c'est pas le plus grave. À la une de l'Écho républicain, il y a une jeune femme éclatante de puissance, Jeux paralympiques, cap sur Paris. Elle est championne de marathon en fauteuil. Mais regardez la photo de la une, elle dévore l'espace, cette jeune femme. J'aimerais être elle, oui, j'aimerais vraiment. À la une de Nord Littoral, la voix des sports de Calais s'est éteinte. C'était un confrère journaliste, Jean-Michel Dauchard, qui a tout commenté en sport à Calais. On se souvient de lui, il est mort mardi. À la une de Libération, qui est le journal de la cinéphilie, un personnage familier qui nous quitte, Laurent Cantet, la lutte classe, c'était un cinéaste engagé, un cinéaste humaniste, lisez-vous à la une de l'Humanité, dont le grand titre de une parle des morts au travail, l'hécatombe française, autre souci pour la France, le Pèlerin et le Figaro, titre sur la dette et les déficits qui nous plombent. Allons, si vous voulez un peu de succès, sachez par les échos week-end que Airbnb est sur le toit du monde, est-on content? Sachez également que la Chine prend le pouvoir en matière automobile, non, décidément, nous ne sommes pas contents.
Et votre choix ce matin, Claude?
Eh bien, c'est un président qui était aussi philosophe, et oui, ça existait, il n'y a pas longtemps, il s'appelait Geliu Gelev, et on était venu le chercher à la fin du communisme pour présider la Bulgarie qu'il s'employa à arrimer à l'Union Européenne et à l'OTAN. Et ce jour où l'on dispute, on votera bientôt, du destin de l'Europe, lisez dans Philosophie Magazine ce portrait d'un homme qui ne se cachait de rien, même sous la dictature, un fils de paysan pauvre qui avait voué sa pensée à une théorie de la personnalité dans un régime politique qui niait l'individu, sa fille a conservé la table de leur cuisine où la police secrète avait caché des micros. Par moments, ce portrait vous fera penser à du Kundera, lui écrivain venu d'un pays, la Tchécoslovaquie, dont le premier président libre après le communisme fut un dramaturge, Václav Havel. En 1982, lisez, c'est drôle, Gelev avait publié un livre nommé « Fascisme » que les censeurs communistes avaient validé sans le lire ou sans le comprendre. Il pensait qu'il s'agissait d'un bouquin contre l'ancien ennemi. Le temps de réaliser l'erreur, 3 semaines, le livre était devenu culte. Car dans ce bouquin, Gelev, philosophiquement, s'en prenait moins au fascisme que au communisme, sa réalité, dont il expliquait méthodiquement qu'il était une forme de totalitarisme encore plus achevée, puisque pénétrant plus profondément encore que le fascisme dans la sphère privée. Il expliquait, Gelev, que le totalitarisme transformait tellement la condition humaine qu'après le communisme qui disparaîtrait, les pays qui lui avaient été soumis passeraient sans doute par une transition fasciste. Et ainsi, sous le malentendu et le sourire était la gravité, peut-être la prophétie que l'on constate aujourd'hui et qu'à sa présidence, Gelev essaya de conjurer. Lisez Philosophie Magazine, on comprend tout.
Merci Claude Oskolovitch. Tout de suite, Esprit Pratique.
France Inter. Le 6-9.
Tout de suite, Esprit Pratique avec Pauline Jacquot. Bonjour.
Bonjour à tous. Avis à tous les parents qui réfléchissent à comment financer les études de leurs enfants. On va parler pré-étudiants ce matin, Pauline. Plus qu'un mois avant les résultats de Parcoursup, vos enfants vont peut-être bientôt quitter le nid, mais avant ça, il va souvent falloir les aider à payer leurs études, évidemment. Nous sommes fin avril, Pauline, et c'est maintenant qu'il faut commencer à se renseigner.
Oui, si vous voulez prendre le temps de recenser les offres, les comparer, prendre les rendez-vous à la banque et choisir l'établissement le plus adapté, il faut s'y prendre maintenant. Ces prêts sont accordés sous deux conditions, être âgé de 18 à 29 ans et posséder un certificat de scolarité en cours de validité.
Et qu'est-ce qu'on peut payer avec ce prêt, Pauline ?
Plusieurs choses, les frais de scolarité bien sûr, mais aussi le loyer, vous pouvez payer des équipements comme un ordinateur ou les frais de transport comme les cartes d'abonnement.
Et on peut emprunter combien ?
Ça va de 300 euros pour les premiers prêts du Crédit Agricole en Ile-de-France, par exemple, à 35 000 euros chez Bred, Banque Populaire, ou 120 000 euros chez SG, fusion des banques Société Générale et Crédit du Nord. Certains prêts peuvent même monter jusqu'à 200 000 euros chez BNP Paribas. Ça dépend évidemment du coût des études et de la réputation des écoles ou des universités.
Et au niveau des taux d'emprunt, Pauline, c'est toujours intéressant ?
Alors effectivement, on peut se poser la question parce que ces prêts sont plus chers depuis quelques années à cause de la hausse des taux. Mais oui, ils sont toujours très intéressant. De 1,9% à 4,9%, ce sont les taux moyens selon le comparatif Panorabank réalisé pour les Échos. Sachez que dans une même banque, les taux peuvent évidemment varier en fonction des études.
Alors aidez-nous à faire notre choix, Pauline.
Alors surtout, ne poussez pas tout de suite la porte d'une agence bancaire. Renseignez-vous d'abord auprès des écoles ou des universités souhaitées sur les partenariats qu'elles auraient éventuellement noués. Ça vaut le coup. Souvent, les banques proposent aux établissements des offres à taux préférentiels.
Et qui garante ces prêt, Pauline ?
Alors les parents, pour ceux qu'ils peuvent, hein, mais pour les jeunes qui n'ont pas ce soutien financier, il y a la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui propose un prêt plafonné, 20 000 euros maximum, remboursable entre 2 et 10 ans. Vous y accédez grâce à des banques partenaires, comme la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne ou encore la Banque Postale. Un détail qui a son importance pour tous ces prêts étudiants, il n'y a pas de frais de dossier.
C'est bon à savoir. Et quand est-ce qu'il faut rembourser alors ?
Alors vous avez deux étapes. Première étape, la phase de différé de remboursement. Là, vous pouvez choisir de ne rien payer ou de payer seulement l'assurance. Cette phase ne peut pas durer plus de 4 ou 5 ans. Et puis ensuite, la deuxième étape, le vrai remboursement, disons, capital, intérêt, assurance. Ça commence généralement quand les jeunes entrent dans la vie professionnelle.
Esprit pratique, merci Pauline Jacquot des Échos et à la semaine prochaine.
France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
6h20 et à votre micro, Marion, l'invité de Inter et ministre délégué chargé de l'Europe.
Et il vient nous parler sur France Inter au lendemain de ce grand discours du chef de l'État sur l'Europe hier à la Sorbonne. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Le président de la République qui s'est donc longuement exprimé sur l'Europe hier, presque 2 heures. Une Europe qui est mortelle, elle peut mourir, dit Emmanuel Macron. Il appelle les 27 à un sursaut pour bâtir une Europe puissante, une défense crédible. Discours fleuve. Jean-Noël Barrot, c'est un discours de campagne ?
C'est un discours de chef d'État qui veut faire entendre la voix de la France pour les 5 à 10 années qui viennent, pour faire en sorte que nos idées continuent à progresser en Europe à un moment où, effectivement, c'est l'existence de l'Union européenne qui est en cause.
Donc pas un discours de campagne ?
Un discours de chef d'État. Vous savez, à la fin du mois de juin, les 27 vont se retrouver pour écrire, rédiger ensemble l'agenda stratégique qui va définir l'orientation de la prochaine Commission européenne. C'est sur ce point que le président de la République, pour rallier nos partenaires à notre cause, a voulu peser. Je constate que le pari est tenu, puisque le chancelier Olaf Scholz, allemand, a quelques heures à peine après la fin du discours, salué l'ambition d'Emmanuel Macron.
Il dit qu'il y a des pistes effectivement qui vont dans le bon sens. Ça doit compter, ce temps de parole du président, dans le temps de parole de la candidate Valérie Ayé, qui se présente, qui est tête de liste aux élections du 9 juin.
C'est à nouveau un discours du président de la République.
Donc ça ne doit pas compter dedans.
La voix française pèse dans les 5 années qui viennent. C'est un moment important qui est devant nous, celui des élections européennes, c'est vrai, mais celui qui va conduire les chefs d'État et de gouvernement à s'accorder sur les priorités pour l'Union européenne. Rallier nos partenaires à notre cause, ça n'a rien d'évident. Je constate que d'ores et déjà, les Allemands ont accueilli favorablement les orientations du président.
Jean-Noël Barrot, vous avez vu quand même les unes des journaux hier, Macron au secours de la majorité, Macron entre en campagne. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Ce que je réponds, c'est que la campagne va, je le souhaite, se placer au bon niveau, sur le terrain européen. Alors que jusqu'à présent, nos concurrents politiques ont tenté de se dérober en ramenant la campagne sur le terrain de la politique nationale pour masquer l'absence d'influence qu'ils ont eue pendant les 5 années qui viennent de s'écouler et l'absence d'influence qu'ils auront si jamais ils sont reconduits au Parlement.
Donc là, c'est drôle parce que vous me parlez quand même de campagne.
Est-ce
qu'avec ce discours, Emmanuel Macron engage sa responsabilité symbolique et politique dans les élections, d'après vous ?
Il engage la responsabilité de la France pour les 5 années qui viennent, pour faire en sorte, comme ça a été le cas depuis 7 ans et le premier discours de la Sorbonne, que les idées françaises soient entendues et pèsent en Europe. Jamais la France n'a été aussi influente en Europe que ces 7 dernières années. L'enjeu, c'est que cela se poursuive, parce que la situation est grave. Nous avons basculé dans un monde qui est celui de la loi du plus fort, et dans ce monde, la seule option viable, c'est de devenir plus fort, et pour cela, nous avons besoin d'une Europe puissante, d'une Europe prospère, d'une Europe humaniste. C'est cela que le président de la République a rappelé hier à la Sorbonne.
Vous savez qui dit que Emmanuel Macron engage sa responsabilité symbolique et politique dans les élections, Jean-Noël Barrot ?
Je vous laisse...
Jordan Bardella, le patron du RN, qui est tête de liste pour l'élection du 9 juin pour son parti. Est-ce qu'en cas de défaite, il faut, comme il le demande, dissoudre l'Assemblée nationale ?
Mais Jordan Bardella est obsédé par 2027, se désintéresse de cette élection européenne et veut entraîner la campagne sur le terrain de la politique nationale pour masquer le fait qu'il n'a eu aucun impact sur le cours des choses depuis 5 ans.
Mais Emmanuel Macron ne serait pas délégitimé par une défaite de Valérie Ayé et de sa liste ?
Je ne crois pas qu'on puisse parler de défaite. Vous savez, c'est une élection.
S'il y en a une.
C'est une élection à la proportionnelle. Chaque voix compte. Et je veux le rappeler à nos concitoyens qui, pour certains, sont encore un peu éloignés dans leur esprit de ce scrutin. C'est le 9 juin. Il n'y aura qu'un tour. Et c'est une élection à la proportionnelle. Chaque voix compte.
Le président de la République disait hier que l'Europe n'est plus adaptée. On est trop lent, pas assez ambitieux. Bref, un bilan assez sévère. C'est pas aussi votre bilan, ça, le bilan de Renaissance, le bilan de Renew, qui est quand même un parti pivot au Parlement européen.
Je le disais, jamais la France n'a été aussi influente que ces 7 dernières années. Il s'est passé en Europe révolution, la révolution de la souveraineté.
Et donc pourquoi ne pas avoir fait ce que réclame
répandu,
le président ?
Ce concept s'est répandu dans tous les États membres et, si je puis dire, dans toutes les forces politiques, puisque désormais même nos concurrents s'approprient cette notion-là. Ce qui a changé, c'est que nous avons basculé dans le monde de la loi du plus fort avec l'agression de la Russie en Ukraine, avec la désinhibition d'un certain nombre de nos grands rivaux, et que face à cela, la menace étant lourde, il nous faut nous réveiller et accélérer.
La liste de votre camp, donc celle de Besoin d'Europe, Renew et ses alliés, qui est menée par Valérie Ayé, elle est systématiquement devancée de loin dans les sondages par le Rassemblement National dont on parlait tout à l'heure. Ça ne change pas. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Il faut soustraire cette campagne aux spéculations des sondeurs. Les sondeurs vous donnent une photographie de l'opinion de ceux qui sont d'ores et déjà décidés à aller voter.
C'est une tendance lourde.
Un Français sur 10 seulement aujourd'hui connaît précisément la date des élections. Quand nous allons nous rapprocher du scrutin, vous allez voir la photographie de l'opinion changer, parce que les Français sont conscients qu'ils ont besoin de l'Europe pour les protéger et que pour cela, il leur faut protéger l'Europe.
Et vous dites que la France est pilonnée par la propagande russe et que c'est une crainte dans le cadre de ces élections, un des enjeux, les ingérences étrangères et donc russes notamment. On se rappelle du faux enregistrement, le deepfake qui avait coûté son élection aux socialistes slovaques à l'automne dernier, en tout cas qui avait peut-être pesé. Est-ce que ce scénario à la Slovaque, il peut nous arriver ?
C'est un risque. Nous sommes pilonnés, nous sommes matraqués en France comme en Europe par la propagande russe. Nous mettons en place un dispositif de vigilance renforcé pour garantir la sincérité du scrutin. Au Parlement, non, en France, du service Viginum, qui a été créé en 2021, qui est unique en Europe et qui détecte et révèle ces tentatives d'ingérence dans le débat public qui ont vocation à nous déstabiliser, mais aussi à
affaiblir. Concrètement, ça marche comment ?
Eh bien, concrètement, c'est une équipe d'experts, experts des données, mais aussi de l'anthropologie, de l'histoire et de la géographie, qui va analyser ces campagnes de fausses nouvelles, ces détournements de sites du gouvernement, pour pouvoir les relier à leurs auteurs, de manière à pouvoir dévitaliser ces campagnes en révélant qu'il s'agit en réalité de fausses informations. Et par ailleurs, j'ai demandé à la Commission européenne de veiller à mettre une pression maximale sur les grandes plateformes de réseaux sociaux pour éviter qu'un scénario comme celui qu'on a constaté en Slovaquie se reproduise, c'est-à-dire en déviralisant, en invisibilisant si nécessaire, des contenus qui seraient propagés pendant les quelques heures qui précèdent l'élection.
Très rapidement, Jean-Noël Barrot, la liste Renaissance, enfin Envie, Besoin d'Europe va être dévoilée bientôt. Est-ce que François Bayrou sera sur la liste ? Oui, non ?
Je le souhaite en tout cas, parce que comme chef d'un parti important de la majorité, il viendra donner tout son poids politique, toute son influence, mais aussi toute sa sensibilité européenne à cette campagne.
Édouard Philippe aussi donc ?
Absolument.
Jean-Noël Barrot, ministre délégué à l'Europe, merci beaucoup d'être venu ce matin sur Inter.
C'était l'invité de Marion Lourd. À suivre, la météo et le journal.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Il est 6h28 sur Antenne.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Mais c'est l'heure d'accueillir Marie-Pierre Planchon. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour, bonjour Marion,
bonjour Ali. Le temps est en train de changer.
Et oui, l'anticyclone a eu la bonne idée de laisser entrer une dépression qui est actuellement sur le golfe de Gascogne et le flux de nord en fait laisse la place à un flux de sud-sud-ouest qui va réchauffer l'atmosphère mais qui va apporter des pluies et des orages et demain un épisode même méditerranéen surveillé à cause des cumuls attendus et des vents qui seront très forts. On attend aujourd'hui donc difficile d'échapper aux averses, excepté ce matin sur les Pyrénées, mais aussi de la Charente en remontant vers l'Île-de-France aux Ardennes. Partout ailleurs, c'est un régime d'averses. Près de la Manche, sur l'Atlantique et ailleurs, le ciel est déjà bien chargé du Limousin aux Cévennes au sud-est avec un orage qui peut éclater. En remontant vers la vallée du Rhône, des averses jusqu'au Grand Est, à l'Alsace avec de la neige. Sur le Massif central et les Alpes à 1300 mètres, et ces pluies arrivant sur les Pyrénées cet après-midi donneront de la neige à 1800 mètres.
Et température en hausse donc.
Oui, mais encore on a des petites gelées comme vers Mourmelon-le-Grand dans la Marne, mais aussi en Moselle. Il fait 4 à Strasbourg, comme en Lozère, 6 à Paris. Vous réveillez avec 7 à Lille, à Brest, 8 à Biarritz, 9 à Nice et 10 à Carpentras. Et cet après-midi, on sera encore sous les normales de saison malgré la hausse. Elles seront comprises entre 12 à Aurillac, 16 à Paris et 19 à Ajaccio.
Vous l'avez compris, on se couvre encore un petit peu. Matin. Bon réveil sur France Inter, il est 6h30.
Le journal Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour à tous. À la une ce matin, ces enfants ukrainiens transférés de force en Russie, ils sont des milliers, de retour au compte-gouttes. Les retrouvailles avec leurs familles sont parfois difficiles. Témoignage dans un instant. La une ce matin, c'est aussi Perrier dans la tourmente. Les consommateurs commencent à se méfier des eaux Nestlé, on va l'entendre. Des promoteurs qui licencient, c'est la crise de l'immobilier, 500 emplois supprimés chez Nexity. Aya Nakamura, artiste de l'année au Flamme. Les victoires du rap et du R&B, elle dit sa fierté à l'heure des polémiques. Et puis Ariane 6 assemblée à Kourou avant son vol inaugural. Nouvelle fusée propre. Nous sommes sur place avec Sophie Bécherel. Il serait 20 000 à avoir été transférés de force en Russie ou dans les territoires occupés depuis le début de la guerre. Des enfants retirés à leurs parents ou pris dans des orphelinats pour être déportés, terme employé par la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Selon Kiev, 400 d'entre eux ont pu être rapatriés, dont 16 qui viennent de retrouver leur famille. Mais ces retours sont parfois compliqués pour ces enfants et adolescents traumatisés. Reportage à Kiev, à Gatmawe.
Diana a 15 ans. Elle vivait encore avec sa famille à Kherson au début de l'automne 2022, quand les autorités d'occupation russes ont mis en place ces colonies de vacances obligatoires.
Le professeur nous a distribué des formulaires à remplir en nous expliquant qu'on était tous obligés de partir en colo en Crimée.
Avec son petit frère et sa petite sœur, elle se retrouve loin de ses parents, officiellement pour 2 semaines seulement. Mais les Russes ne les laissent pas repartir. 6 mois s'écoulent avant que l'association Save Ukraine ne parvienne à les extraire de Crimée.
Quand j'ai retrouvé ma mère, elle avait plein de larmes, elle nous embrassait en nous disant « Je ne vous lâcherai plus jamais ».
Pourtant, les semaines qui suivent leur retrouvailles ne sont pas simples.
Au début, je ne voulais pas être près de mes parents. Je sais pas, j'étais un peu fâchée contre eux.
Ces séances de thérapie l'aident, mais pour Olena, la psychologue de l'association, les blessures sont bien réelles.
Ils ont des troubles du sommeil ou du comportement alimentaire. Ils ont été séparés longuement de leur famille, donc il faut recoudre petit à petit ces relations.
Diana, elle, dit qu'elle était devenue là-bas comme une deuxième mère pour son petit frère et sa petite sœur. À leur retour, la famille a dû quitter Kherson. Tous reconstruisent peu à peu leur vie désormais ensemble à Kiev.
Agathe Mahué, correspondante de France Inter en Ukraine avec Yachar Fazilov. À Gaza, c'est un port temporaire qui va faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire. Des soldats américains viennent de commencer la construction d'une jetée prévue pour être opérationnelle début mai dans l'enclave palestinienne assiégée et dévastée après 6 mois de combat entre le Hamas et l'armée israélienne. La France envisage de nouvelles sanctions sanctions contre les colons israéliens coupables de violences sur des civils palestiniens de Cisjordanie, annonce de l'Élysée après un coup de fil entre Emmanuel Macron et le roi de Jordanie. Depuis le mois de février, 28 colons sont visés par une interdiction administrative du territoire français. Et puis pour la deuxième journée, quelques dizaines d'étudiants ont occupé un nouveau bâtiment de Sciences Po Paris hier soir, en soutien à la cause palestinienne. La police avait évacué un autre site de l'établissement la veille.
6h33 sur Inter, 2 millions de bouteilles de Perrier détruites. C'est le temps pour Nestlé.
D'autant qu'on apprend que ce sont les autorités sanitaires qui ont demandé la destruction des palettes de bouteilles après la découverte de matières fécales et de bactéries dans l'eau d'un puits Nestlé de Vergès dans le Gard. Un coup dur supplémentaire pour le leader mondial des eaux en bouteille qui possède aussi les marques Vittel, Contrex, Épar ou San Pellegrino, dont les consommateurs que vous avez rencontrés, Thomas Bonnet, commencent à se méfier.
Course à la main et poussette à bout de bras, Alix sort d'un supermarché. Elle prépare les biberons de son fils avec de l'eau en bouteille.
Il boit 4 biberons de 240 ml, donc ça fait pas mal.
Les récentes révélations sur la qualité de ces eaux préoccupent l'analyste financière de 29 ans.
Bah, c'est un petit peu inquiétant quand même. Moi, j'ai pris l'eau en bouteille parce que j'espérais que c'était ce qui avait de plus sûr pour mon fils.
Marianne aussi est inquiète, mais pas question d'arrêter l'eau en bouteille. La quinquagénaire choisit donc son eau en fonction des dernières informations.
Je prends cette marque-là sur laquelle, pour l'instant, il n'y a pas eu de... pas encore en tout cas, de sujet.
L'eau est claire, mais il y a un petit manque de transparence.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de manque de transparence et que découvrir les trucs via les médias... c'est jamais top.
Des révélations qui amènent Dominique, 66 ans, à se poser des questions.
Si on ne peut plus faire confiance aux grandes marques, à qui on va faire confiance maintenant? On se retrouve aujourd'hui à consommer des bouteilles qui ne sont pas forcément... je pense qu'il n'y a pas de danger au point de vue santé, mais ils ne sont absolument pas transparents sur leur communication.
Alors Dominique trouve des solutions comme il le peut.
J'utilise aussi de l'eau du robinet que je filtre. Je ne sais pas si c'est l'idéal. En tous les cas, j'essaie de trouver des solutions alternatives.
En première ligne face à l'inquiétude, les associations de consommateurs affirment être débordées par les appels depuis plusieurs jours.
Thomas Bonnet, de son côté, le concurrent Danone, se veut rassurant. Numéro 2 mondial des eaux en bouteille avec Evian, Volvic et Badois. Elles font l'objet de contrôles extrêmement rigoureux. Un soin immense est porté aux zones de captage pour les préserver de toute contamination, assure le patron du groupe. Plus de vin français en 2023, alors que la production mondiale perturbée par les événements du climat a chuté de 10%. La France, avec 48 millions d'hectolitres produits en hausse de 4%, devient de loin le premier producteur de vin au monde. Devant l'Italie et l'Espagne. Ça va mal dans l'immobilier, achat, vente, construction, le secteur est encore en pleine crise et les promoteurs licencient, 500 emplois supprimés chez Nexity. Le numéro 1 français de la construction vient de l'annoncer, Isabelle Raymond.
Les premiers départs auront lieu à l'automne, 502 emplois au total, c'est 20% des effectifs du pôle promotion construction le plus important de Nexity. Le groupe compte aujourd'hui 4500 personnes. C'est le plan social le plus conséquent annoncé par un promoteur ces derniers mois, mais des suppressions de postes ont aussi été actées dans d'autres entreprises du secteur, Vinci et Bouygues Immobilier notamment. Comme ses concurrents, Nexity souffre de la crise du logement avec des matériaux en hausse, des normes environnementales de plus en plus strictes et des élus parfois réticents, constate le secteur. Le nombre de réservations de logements neufs s'est effondré de 30% sur un an fin 2023. Les professionnels demandent un coup de pouce de l'État quand l'exécutif, lui, attend plutôt une amorce de baisse des taux d'intérêt et une baisse des prix.
Quelle note pour la France en économie? Les deux grandes agences Fitch et Moody's rendront leur verdict ce soir sur l'état de la dette française. Elle dépasse les 3 000 milliards d'euros avec un déficit public au-dessus de 5%. Les notes des agences, quand elles baissent, peuvent faire augmenter les taux auxquels les pays empruntent. Ariane 6, fusée plus propre, assemblée à Kourou en ce moment avant son lancement inaugural prévu entre le 15 juin et le 31 juillet. Le processus a beaucoup changé par rapport à Ariane 5 en vertu de deux objectifs fixés il y a 10 ans au moment du lancement du programme, diviser par deux la facture et réduire l'empreinte environnementale de la fusée. Reportage à Kourou en Guyane, Sophie Bécherel.
Pour Ariane 6, tout le monde fait la chasse au gaspille. Il y a d'abord eu Canopée, ce cargo à voile hybride qui transporte désormais les différentes parties de la fusée vers la Guyane. 7000 tonnes de CO2 évitées chaque année, l'équivalent de ce qu'émettent 600 Français. Puis le recours aux renouvelables. Sur la base à Kourou, un champ de panneaux solaires nucléaire est en construction, bientôt rejoint par une usine de biométhane. Enfin, pour la première fois, un bâtiment se passe de climatisation. Le portique, véritable cathédrale de tôle, bénéficie des alizés, 26 degrés en permanence grâce à des volets latéraux, explique Frédéric Munoz, chef de projet des moyens sols au CNES.
Ces volets, en fait, lorsqu'ils sont ouverts, il y a une circulation d'air dans le portique qui permet que cet air ne chauffe pas. C'est le principe qu'on trouve dans les maisons créoles. Et la maison est orientée de telle sorte que l'alizé rentre dans la maison toujours par le même sens, nord-nord-est, hein, c'est l'origine des vents. Et donc, si vous orientez bien la maison, vous avez toujours votre maison qui est ventilée.
30 ans séparent Ariane 6 d'Ariane 5. Les lois ont changé, l'impact sur la biodiversité est mieux contrôlé. L'eau qui arrose le bas du lanceur au décollage sera bientôt retraitée sur place. Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES.
On a développé une centrale pour nettoyer l'eau et la réinjecter dans la roche dans laquelle on vient puiser cette eau qui alimente le château d'eau. Donc on est dans un circuit fermé, vertueux, très respectueux de l'environnement.
Auparavant, cette eau était en partie envoyée en métropole pour être retraitée.
Sophie Bécherel à Kourou, en Guyane, pour France Inter. Incontestée en son royaume, Aya Nakamura, artiste féminine de l'année, aux flammes, les victoires du rap et du R&B comme l'an dernier. C'est elle qui a ouvert la cérémonie. Et en montant sur scène pour récupérer son trophée, elle a pour la première fois publiquement évoqué la polémique alimentée par l'extrême droite autour de son éventuelle interprétation d'une chanson d'Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Ce trophée, cette victoire-là, c'est pour toutes les Renois, pour tes petites, toutes les filles qui me regardent. Mais bien sûr, on vient de loin. Parce que être artiste féminine et en plus noire et qui vient de banlieue, c'est très très difficile. Honnêtement, moi je sais d'où je viens et je sais que j'ai inspiré plus d'une et j'en suis très 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 fière. Franchement, merci à vous. Je reçois tout l'amour, tous les messages, tous les supports, malgré les polémiques, malgré les critiques, etc. Voilà, merci à vous.
Voilà, Aya Nakamura sur la scène de la cérémonie des flammes. Le tenant du trophée masculin, c'est Gazo. De nouveau sacré hier soir. Ils avaient tous les deux, Gazo et Nakamura, remporté des victoires de la musique.
Florence Paracuelos pour le journal. Tout à l'heure à 8h20, écrivain, critique, éditeur, professeur au Collège de France. Il vous a régalé en juillet août dernier avec son été avec Don Quichotte. William Marx sort ses chroniques en version livre. Et c'est avec France Inter. Il sera notre invité. On attend vos questions au standard 01 45 24 7000 et à partir de 7h et sur l'application France Inter.
Demain sur France Inter, la patronne de Veolia dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
Question sur l'accès à l'eau, sa qualité, son prix et puis sur cette école de la transformation écologique que vient de lancer le géant mondial. Estelle Brachlianoff est mon invitée.
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
Avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Merci d'écouter Inter, 6h41.
France Inter, le 6-9.
Et la joyeuse équipe des chroniqueurs du Carrefour nous a rejoints. Bonjour à tous.
Bonjour.
Dans vos histoires du monde, Gallagher Fenwick.
Alors la Moldavie, pardon, hop, si je retrouve mes notes, voilà exactement. Peut-on vraiment se demander, pardon, pour qui roule l'opposition en Moldavie alors qu'elle vient d'organiser son congrès à Moscou?
Dans Net Plus Ultra, Victor Vasseur.
Les créateurs de contenu et influenceurs américains dépités par la possible interdiction de TikTok aux États-Unis.
Dans le prétoire avec vous, Jean-Philippe Deniaux.
La menace de se suicider peut-elle être considérée comme une forme de harcèlement moral, thérapie de couple aujourd'hui au tribunal?
Et votre billet, Thomas Croisière?
Moi, je me fais engueuler par Marion parce qu'il n'y a pas assez de TFN. Il y en aura au moins un.
À tout à l'heure. Mais d'abord, les histoires politiques avec vous, Charlotte Chaffanjon. Dans votre histoire aujourd'hui, Marion Maréchal a trouvé le moyen de faire parler d'elle.
Oui, c'est peu dire que la campagne pour les européennes de Marion Maréchal, la tête de liste du parti d'Éric Zemmour,
peine à décoller. Elle-même l'admet d'ailleurs parfois, elle n'est pas sûre de récolter les 5% nécessaires pour envoyer des élus à Strasbourg. Et sa stratégie visant à convaincre le RN de Jordan Bardella d'allier leurs forces ne fonctionne pas du tout pour l'instant. Mais cette semaine, la nièce de Marine Le Pen a bel et bien provoqué le débat. Je vous résume l'affaire. Elle a reposté sur son compte un tweet annonçant la naissance de Mia et Sun, les jumelles de la star du stylisme Simon Porte-Jacquemus et de son mari Marco Maestri, des jumelles nées par GPA. Alors la parenthèse, la GPA, c'est la gestation pour autrui. Pour rappel, c'est lorsqu'une femme décide de porter un enfant pour le compte d'un couple de parents infertiles, à qui l'enfant sera donc remis à sa naissance. Les membres du couple qui vont devenir parents peuvent être tous les deux les parents génétiques de l'enfant. Un seul des deux peut avoir un lien génétique ou bien aucun des deux. Eh bien, Marion Maréchal a donc tweeté à propos des filles du couple Jacquemus. Où est la maman ? Ce qui n'a d'abord aucun sens, puisque des enfants nés de GPA peuvent tout à fait avoir deux mamans, un papa et une maman, deux papas, comme n'importe quel couple qui souhaite avoir des enfants. C'est possible avec l'adoption ou avec la PMA. Le sujet n'est donc pas lié à la GPA, mais passons. S'en est suivie une avalanche de réactions, de tribunes, d'éditos en tout genre, pour s'insurger de son mépris ou pour défendre son courage. Évidemment, tout est une question de point de vue sur ce sujet finalement assez méconnu et très complexe. La candidate a profité des projecteurs braqués sur elle pour en rajouter une couche sur CNews mercredi en dénonçant, je cite, « une pratique monstrueuse et honteuse », ajoutant « je ne suis pas un produit alloué, mon utérus n'est pas un produit alloué ».
Difficile de comprendre l'expression parce qu'il faut le rappeler, la GPA est interdite en France.
Oui, et c'est ce qui est extraordinaire dans les passions que ce tweet a déchaîné cette semaine, comme souvent avec les sujets de bioéthique, ce qui renvoie à l'intime, c'est qu'en l'occurrence, la GPA non seulement est interdite en France, comme en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, mais en plus de cela, elle n'est tout simplement pas au menu d'aucun parti politique. Ce qui n'est bien sûr pas une raison de ne pas en débattre, et le sujet arrivera sans doute un jour concrètement sur la table, mais à ce stade, lors de la dernière présidentielle, Emmanuel Macron avait fait une ligne rouge, Valérie Pécresse y était viscéralement opposée, même les écolos de Yannick Jadot et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon ne l'avaient pas inscrite au programme. C'est assez rare un tel consensus en politique.
Et pourtant, il y a en France des enfants qui sont nés par gestation pour autrui.
Oui, des enfants qui sont souvent le fruit d'histoires difficiles. Aucun couple par caprice, comme le disent ses détracteurs, ne décide de se lancer dans un tel parcours, le plus souvent douloureux et coûteux. Il faut donc se rendre à l'étranger pour mener le projet à terme, aux États-Unis souvent, pays qui autorise les mères porteuses. Plusieurs décisions ont tout de même été prises ces dernières années par le législateur et par la justice française, parfois guidées par des décisions européennes, qui permettent de délivrer la nationalité française aux enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. Précisons deux choses, il n'y a pas de chiffre officiel en France concernant le nombre d'enfants nés par GPA, mais cela concernerait environ 200 enfants par an, et les Français y sont majoritairement favorables, plus de 7 Français sur 10 selon l'IFOP en 2022.
Histoire politique, merci Charlotte Chaffanjon de Libération à 7h moins le quart, l'histoire du monde. Gallagher Fenwick, vous nous emmenez ce matin en Moldavie, il y a une réunion de l'opposition moldave qui devrait nous alerter.
Les parallèles sont troublants entre la situation actuelle de la Moldavie et celle que l'Ukraine a connue à Lille. Ces deux pays sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne et sont convoités par la Russie qui cherche à les assujettir. Seule différence majeure entre ces deux voisins sur le flanc oriental de notre continent, l'un subit une guerre de haute intensité imposée par Moscou, l'autre, pour le moment, fait seulement l'objet de manœuvres de déstabilisation orchestrées par le pouvoir russe. C'est à Moscou que les partis moldaves de l'opposition pro-russe viennent de se réunir. Ils ont discuté d'une candidature commune pour la présidentielle d'octobre prochain. Lors de ce scrutin, les Moldaves devront également se prononcer sur l'intégration de leur pays dans l'Union européenne. Et ça, Vladimir Poutine n'en veut absolument pas.
Et pourquoi ça lui pose un problème à Vladimir Poutine, Gallagher ?
Alors, élue présidente de la Moldavie en 2020, Maia Sandu est résolument pro-européenne, Marion. Son arrivée au pouvoir accélère la sortie de son pays de la sphère d'influence russe. Le message est clair, pour son avenir, Chisinau, la capitale moldave, se tourne vers Bruxelles et non plus Moscou.
Et que peut faire le président russe pour empêcher ça ?
Il peut financer l'opposition pro-russe, ça c'est pour l'ingérence. Autre corde à son arc, le séparatisme. La république autoproclamée sur le territoire moldave, la Transnistrie, rappelle d'ailleurs celle de Donetsk et de Louhansk dans le Donbass ukrainien. La Transnistrie, elle, regorge d'armes et de munitions datant de l'époque soviétique. Ses représentants ont récemment appelé Moscou à les protéger. Ils dénoncent, je cite, le viol de leurs droits et de leurs libertés par les autorités moldaves. La Gagaouzie, une province dans le sud de la Moldavie, est également traversée par un courant indépendantiste pro-russe. Pour l'instant, tout cela n'est que rhétorique, mais c'est un front qui menace périodiquement de se réchauffer.
Mais que peut faire la Moldavie, Gallagher ?
Des juristes sur place, Marion affirme qu'il est impossible de faire interdire les partis pro-russes. Néanmoins, les dirigeants de ces formations font l'objet de poursuites, notamment pour fraude. Ils ne devraient donc pas pouvoir concourir à la présidentielle. Selon le parquet moldave, à cela pourrait s'ajouter une condamnation de certains de ces dirigeants pour trahison à la patrie. Chisinau doit également convaincre l'Europe de ne pas être naïve ou aveugle face à la menace de déstabilisation d'un pays qui souhaite rejoindre l'Union. La Moldavie a besoin d'être soutenue diplomatiquement et économiquement pour ne pas avoir à le faire militairement demain.
La Moldavie, ouvertement ciblée par des tentatives de déstabilisation russe, c'était votre histoire du monde, Gallagher Fenwick. Il est 6h48, l'actualité du numérique, c'est Net plus Ultra avec vous, Victor Vasseur. Et on revient avec vous sur le vote du Sénat américain, un vote intéressant en faveur d'une vente du réseau social chinois TikTok dans un délai de 9 mois. Sous peine d'être banni du pays, tout simplement. Et c'est une décision qui indigne les créateurs de contenu américains, Victor.
Oui, sur TikTok, ces derniers jours, des dizaines d'internautes ont partagé leur consternation.
Those people right there.
Ces gens-là viennent de nous voler notre liberté d'expression et notre liberté sur TikTok.
Well, rest in peace,
repose
TikTok.
En paix, TikTok.
We are TikTok.
Nous sommes TikTok.
We are TikTok.
Tessa habite depuis 12 ans en France. Cette américaine s'appelle Madame Tartampion sur TikTok. Elle compte 100 000 abonnés. Tessa a 70% de son audience qui vient des États-Unis.
Je pense que c'est extrêmement regrettable d'interdire cette application parce qu'il y a tellement de contenu très niche avec des communautés qui échangent des informations, qui s'éduquent. D'enlever ça, c'est vraiment un affront à la liberté d'expression.
Comme Tessa, Amanda est très remontée. Cette américaine vit à Paris. 1 million d'utilisateurs la suivent. Elle affirme qu'elle va perdre 5 000 euros par mois si TikTok disparaît, alors quand le vote est passé, Amanda s'est lâchée dans une vidéo.
Cela n'a absolument rien à voir avec notre sécurité. Comme si notre gouvernement en avait quelque chose à foutre de notre sécurité. Littéralement, Facebook se déchaîne en coulisses en vendant nos données aux plus offrants. C'est un fait. Ça a complètement changé ma vie et ça m'a permis de quitter le monde de l'entreprise et de faire enfin le travail que je devais faire.
Amanda estime que supprimer l'appli, c'est surtout pour censurer les discours militants partagés en masse sur le réseau social. TikTok compte 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Roya en fait partie, elle partage sa passion pour la culture française à ses 150 000 abonnés.
Franchement, j'adore TikTok et ça va beaucoup me manquer. J'aime bien apprendre plein de choses sur TikTok. On peut apprendre plein de choses sur des gens, voir des mondes différents, voir des avis des personnes, des pays différents. Et du coup, c'est pas que pour rigoler, c'est pour apprendre aussi.
Et ces créateurs de contenu s'interrogent. Pourquoi TikTok, mais pas Instagram et Facebook ? Le gouvernement américain accuse la Chine d'aspirer les données de ses utilisateurs avec TikTok.
Mais pour TikTok, Victor, la bataille n'est pas terminée aux États-Unis.
Non, le réseau social dispose désormais de près de 9 mois pour trouver de nouveaux investisseurs non chinois, faute de quoi l'application sera interdite aux États-Unis. Mais trouver une entreprise capable de racheter TikTok n'est pas une mince affaire. Mais cette loi pourrait aussi être jugée inconstitutionnelle. Elle cible une seule entreprise alors que la loi est censée être générale. C'est pour cette raison qu'une première tentative d'interdiction de TikTok par Donald Trump avait échoué en 2020.
Net plus ultra, Victor Vasseur, merci. Votre chronique est à retrouver sur le site internet de France Inter. 6h51 et dans le prétoire ce matin, Jean-Philippe Deniaud, un couple qui se déchire dans le prétoire du tribunal correctionnel de Paris.
Oui, alors vous le savez, un tribunal détermine la culpabilité d'un individu en examinant les charges issues de l'enquête, en définissant l'élément matériel de l'infraction, mais aussi l'élément intentionnel, la volonté de nuire, mais toujours avec une marge de libre appréciation. Et parfois, cette marge est immense, notamment en matière de harcèlement moral. Dans le prétoire, Pascal et Mathilde se sont assis face à face. Il y a 20 ans, ils étaient côte à côte à la mairie pour se jurer amour et fidélité. Ils ont construit de belles carrières, ont eu 3 beaux enfants, acquis une belle maison. Et puis, il y a eu la cinquantaine, la routine, les réseaux sociaux. Pascal s'est évadé sur Tinder, Mathilde s'est sentie trahie. Pascal a tenté de sauver le couple, mais Mathilde lui a dit que non, qu'elle allait partir avec Daniel. Pascal ne l'a pas supporté, il s'est battu beaucoup, beaucoup trop pour Mathilde, qui a porté plainte pour harcèlement. La procureure à l'audience rassemble tous les éléments constitutifs de ce harcèlement. Ça a duré 3 mois l'an dernier, quand Mathilde lui a dit qu'elle allait partir au sport d'hiver avec les enfants et Daniel. Ils ne supportent pas, développe la procureure. Ils s'adonnent au chantage au suicide à deux reprises. Il lui envoie 3 courriers dans lesquels il lui dit combien il l'aime, combien il est malheureux, mais aussi combien elle se fait abuser par son nouveau compagnon, qui n'est pas celui qu'il prétend être, témoignage de l'ex de Daniel à l'appui. Et puis, ce 24 février où il la traite de salope devant une de leurs enfants, et ce 22 avril où il tente de l'appeler 18 fois en 8 heures, ce sont des actions isolées, reconnaît la procureure, mais qui, dans l'ensemble, constituent du harcèlement, et elle demande 6 mois de prison avec sursis. L'avocate de Pascal se lève pour plaider l'honneur de celui qui est assis ici sur le banc de l'infamie, attaque-t-elle. Les insultes, il n'y en a eu qu'une, une fois. Jamais le ton n'est monté les autres fois. Et puis, Mathilde a elle aussi évoqué ce gros connard qui a commencé en la trompant. Le chantage au suicide, où est-il, poursuit l'avocate. Parce qu'il a dit qu'il allait jeter dans le Rhône ou se mettre un coup de couteau dans le ventre, mais il n'y a pas de chantage, pas de menace. Il était en dépression chronique, justifie l'avocate. Et c'est étrange comme les mots sont mal employés dans cette enquête, poursuit-elle. Quand monsieur fréquente une autre femme, c'est une maîtresse. Quand madame fréquente un autre homme, c'est un nouveau compagnon. Et voilà comment une crise de couple se transforme en procédure pour harcèlement. Il vous a trompé, madame, conclut l'avocate, sur les réseaux sociaux, c'est pas super, mais avec une garde à vue et un an de contrôle judiciaire qu'il a respecté à la lettre, monsieur a déjà payé fort cher d'avoir commis pour seul délit, d'avoir voulu reconstruire son couple et sa famille. Il n'a eu aucun comportement qui porte à l'intégrité physique ou morale de madame, aucun agissement répété, c'est une relaxe totale, demande-t-elle. Le tribunal se donne un mois avant de rendre son jugement, définir les charges qui pourraient relever du harcèlement, avec cette marge de la libre appréciation des faits dont il est saisi. En attendant, Pascal et Mathilde ont quitté l'audience, chacun de leur côté, visiblement apaisés que les choses aient été dites, un peu comme s'ils sortaient d'une bonne séance de thérapie.
Jean-Philippe Degnaud du service police-justice de France Inter, merci à vous.
France Inter, partenaire de l'agenda culturel des Jeux 2024, du Parisien Aujourd'hui en France Week-end. Calendrier et infos pratiques des temps forts en Ile-de-France et en région. Exposition, art de la rue, danse, littérature, musique, cinéma, théâtre. 32 pages pour profiter au mieux des événements culturels et artistiques autour des Jeux. L'agenda culturel des Jeux 2024, un supplément Le Parisien Aujourd'hui en France Week-end, à lire aujourd'hui avec votre quotidien. Un partenariat France Inter.
7h05 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Marie-Pierre Planchon, vous êtes si pimpante, c'est peut-être parce qu'il fait moins froid ce matin.
Oui, enfin, c'est comme vous voulez. Mais c'est surtout dû au changement de flux qui est passé au sud-sud-ouest et qui fait remonter de l'air plus doux. Mais, il y a un mais, cet air doux est associé à une belle dépression qui est située sur le golfe de Gascogne et qui se rapproche et qui va arroser pratiquement les deux tiers du pays ce matin. Épargnant les Pyrénées avec de la neige sur le massif central et les Alpes à 1300 mètres, avec des orages sur les bouches du Rhône. Sont également épargnées les régions du centre, des Charentes à l'Île-de-France aux Ardennes et sur le nord et les côtes de Manche jusqu'en Bretagne. On a une dépression britannique qui nous envoie également pas mal d'averses. Avec ces nuages, eh bien, le mercure remonte. 7 à Lille, vous avez 9 à Lyon comme à Bordeaux. En revanche, on a encore des petites gelées sur le nord-est, comme en Moselle, à Mouterhouse, il fait moins 1.
Davantage d'instabilité cet après-midi.
Oui, car dans le sud, on a des pluies qui vont s'ajouter avec les orages qui vont remonter des Cévennes jusqu'en Bourgogne, mais aussi des Charentes à la Normandie. Et demain, à surveiller car on attend un épisode méditerranéen donnant de bons cumuls de pluie, des vents très forts. Par contraste, en Corse, il fait beau et sur les régions du centre, malgré un soleil un peu plus généreux, les averses ne seront pas exclues sous un mercure qui prend un petit peu de couleur cet après-midi, mais on sera encore en dessous des normales, pas plus 12 à Cherbourg, 14 à Rouen, 15 à Nantes, vous aurez 16 à Montpellier et 19 à Calvi.
Merci Marie-Pierre Planchon, vous êtes prête à chanter ? Jingle humour.
France Inter.
Thomas Croisière, la Gagaouzie vous attend.
C'est tout le monde est OK pour le radis ?
OK !
Et surtout Pierre, un auditeur qui nous écoute de la région lyonnaise sur le 101.1 et qui pensait que nous n'oserions pas karaoké.
Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie.
Vous êtes à fond, Mario, la fille du coupeur de joie.
J'aime beaucoup
l'idée. Alors, j'ai longtemps cru que ce titre d'Hubert Félix Thiéphaine parlait de la fille d'un jointeur, ces professionnels du bâtiment qui interviennent avec les plaquettes. Puis, au collège, j'appris que le franc-comtois amateur de canquoyote évoquait plutôt les cigarettes qui font rire. Et depuis, en beuglant... Wow, 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 wow. l'impression d'être un énorme rebelle. Comme quand on écoutait au mi-temps des années 90. Passe, passe le linge, passe, passe le linge, y'a du monde sur la corde à linge. Passe, passe le linge, passe, passe le linge, passe, passe le linge, y'a du monde sur la corde à linge. Et si NTM parle de corde à linge, ce n'est pas parce qu'ils font la lessive, mais parce qu'ils sont séchés et alignés sur leur canapé, comme sur une corde à linge. À la même époque, Billy the Kick célébrait sans filtre le papier à rouler.
OCB, OCB, fais tourner, fais tourner, fais tourner, OCB. OCB, OCB, carton blindé. OCB, c'est encore moi le dernier.
Alors que le sigle OCB ne veut pas dire oxyde carton blindé, mais indique leur lieu de production breton. O pour OD, C pour Cascadec, et le B, c'est celui de Bolloré, car cette marque a été créée par le grand-père à Vincent. Son empire, c'est un peu à nos auditeurs amateurs de Bédo qu'il le doit. La finesse est omniprésente dans la chanson populaire. Elle inspira même les très propres sur eux, Beatles. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find. J'étais tout seul, j'ai roulé, je ne savais pas ce que je trouverais. Another world where maybe I could see another kind of mind. Et pas besoin d'avoir fait anglais première langue pour comprendre que cette autre façon de percevoir le monde, Paul la cherche dans la weed qu'il veut faire entrer dans sa vie. Got to get you into my life.
Ah oui.
Même Pierre Perret, quand il chante
quand Cristobal est revenu, des pesos, des lingots, il en a le cul cousu, la famille hypocrite, vive le barbu, tonton Cristobal est revenu.
Et maintenant écoutez bien,
depuis que tonton est là, on fume de la marijuana. On fout des coups de pétard partout, nos parents mouffent pas.
Bah Pierre Perret fait l'apologie de la Marie-Jeanne. Et attendez, Marie-Jeanne comme...
Marie-Jeanne qui disait tout,
mais oui.
Je serai la femme d'un homme.
Bah oui, comme ce tube de Michel, car vous le savez bien, Ali, tous les chemins, même ceux des paradis artificiels, mènent à Michel. Et la vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en karaokan.
Ça, c'est sûr.
Merci, merci à vous, Thomas Croisière. Dans une petite poignée de secondes, vous nous avez laissé une petite poignée de secondes pour dire que non, fumer des joints.